Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de critique, de la critique de la tradition religieuse islamique. La critique, quand elle est populaire, elle est salutaire, et quand elle est académique, elle a un intérêt scientifique véritable. Nous verrons toutes ces choses-là avec le professeur Houali Touati, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit, Houali Touati, il y a ce concept de l'institutionnalisation de l'oubli de la tradition savante en contexte islamique. Et parmi les dégâts dus à cet oubli, c'est la possibilité de critiquer la religion en tant que telle. Alors pourquoi est-ce que je vous pose la question et pourquoi c'est le thème central de notre émission, c'est que de temps à autre, il y a des épisodes dans les grands médias avec cette idée que il y a le comportement de certains musulmans ou des musulmans n'acceptant pas que leur tradition religieuse soit critiquée, voire blasphémée, et vous vous dites que ces choses-là, à travers l'histoire et même dans les références scripturaires, étaient totalement autorisé et que ça ne posait pas tant de problèmes. Alors comment peut-on expliquer ça dans un premier temps, Houali Touati ?
L'islam s'est constitué, c'est presque une banalité de le dire, s'est constitué dans l'histoire. Et donc il a revêtu des formes historiques qui sont différentes les unes des autres, mais tout en s'inscrivant dans la continuité. Les musulmans d'une époque n'ont pas toujours conscience des changements opérés dans leur religion, et c'est assez souvent ceux qui produisent des crispations, des tensions dès que l'on parle d'une des formes historiques de l'islam pour la confronter ou la mettre en relation avec une autre forme historique qui sur nombre de choses peut lui être opposée de façon quasi frontale. Et donc les tensions chez les musulmans d'aujourd'hui viennent du fait qu'ils ont assez souvent le sentiment qu'on critique trop facilement leur religion et qu'on épargne les autres religions. Mais ce n'est pas du tout le cas. Nous vivons en Europe, la modernité européenne est fondamentalement construite sur la critique de la religion. Or, la religion qui est mise en critique, d'abord et avant tout, c'est le christianisme et non pas l'islam ou le judaïsme ou d'autres religions.
Oui, à ce sujet, mais on va parler ensemble, vos définitions sont pertinentes, nuance entre blasphème et critique, mais nous avons eu récemment, quand je dis récemment, ça remonte déjà maintenant quelques semaines, un chanteur peut-être de piètre talent artistique qui disait des horreurs sur Jésus, et on disait de ce chanteur qu'il ne court aucun risque, ou presque, comme tout est dans le presque, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, alors que la jeune adolescente Mila, qui elle aussi a dit des choses peut-être inconvenantes ou grossières à propos de l'islam, courait un énorme risque aussi. Comment expliquez-vous d'abord cette réaction primaire ? On a deux traditions religieuses. Il y en a une où le chanteur était vraiment dans l'injure et le blasphème, parce qu'étymologiquement, blasphémer, c'est injurier, rien d'autre. Il ne court aucun risque, il n'y a pas eu ces réactions excessives ni hystériques. Et le cas de la jeune adolescente, il y a eu cette réaction, notamment de la jeunesse musulmane.
La France est en grande partie aujourd'hui un pays déchristianisé. Donc les réactions...
Mais ce n'est pas pour autant qu'il est islamisé.
Et ça n'est pas pour autant qu'il est islamisé. Le pays est laïque et la démocratie et la modernité reposent sur l'athéisme politique. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. Les réactions face aux injures, aux critiques, je ne sais pas comment qualifier les propos de l'adolescente qui avait été blessée par d'autres propos injurieux. Et donc,
et qu'on ne dit pas, parce que du point de vue islamique, ce jeune homme qui a dû l'embêter n'aurait pas dû le faire, puisqu'il était non seulement d'une grande lourdeur et d'une grande grossièreté, mais il n'avait pas non plus à lui parler de la manière avec laquelle il a parlé, j'allais dire islamiquement parlant. C'est en amont de toute cette affaire.
Je crois qu'il y a une crise de l'autorité religieuse en islam. Et cette crise de l'autorité religieuse a transformé le rapport à la religion. Paradoxalement, elle l'a démocratisé, mais au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que du fait qu'il y a une crise des autorités, il n'y a plus de paroles autorisées qui s'impose à la majorité des musulmans et qui disent ce qu'est la loi religieuse et ou ce qu'elle ne l'est pas.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas le truchement d'un maître sage qui puisse expliquer quelle est la parole, la norme religieuse sur telle ou telle situation.
Elle est à ce niveau-là, effectivement. L'absence de ces médiations provoque les tensions parce que cette absence de médiation va faire de tout musulman pieux le représentant et le défenseur de l'islam. Et donc les gens, assez souvent, une partie au moins des musulmans s'autorisent à ces attitudes excessives en pensant qu'ils défendent de l'islam. Mais assez curieusement, les propos haineux et injurieux à l'égard de l'adolescente montrent que ça n'a rien d'islamique, ni même d'humain.
Oui, et cela corrobore les idées que cette tradition religieuse, dont elle pâtit de la part des non-musulmans, en disant, ben voilà, par cette réaction, vous montrez ipso facto qu'il y a un véritable problème quant à la notion de la prise de distance, de froideur d'esprit, de calme. En ce qui concerne la critique, là c'est un cas spécial dit de blasphème ou d'insulte, nous aurons peut-être à y revenir. Parlons maintenant de la critique. Dans les contextes islamiques, au moment de l'expansion, notamment de l'Empire, à la fin de l'Empire Omeyyade, puis on est dans l'Empire Abbasside, il y a eu des disputationes, pluriel de disputatio, et on pouvait critiquer en présence même de théologiens musulmans. Et la critique pouvait venir de la part d'autres adeptes de traditions religieuses, y compris de la part de libres penseurs.
Oui, ça c'est une tradition qui a disparu, mais qui a animé en grande partie l'islam classique depuis la fin du 8e siècle jusqu'au 11e, 12e siècle. Il y a un empire, il y a des communautés religieuses qui cohabitent, il y a des échanges intellectuels entre communautés savantes appartenant à différentes traditions religieuses, et c'est dans les contacts et les confrontations entre les différentes traditions religieuses et savantes que chacune des communautés religieuses a fabriquer son propre discours religieux. Et c'est pourquoi, si on prend le kalam, qui est la théologie, le kalam veut
presque
dire
au sens premier du terme.
Ça veut dire logos, c'est-à-dire discours, mais ça,
discours sur le divin.
Discours sur le divin. Mais cette tradition du kalam, aujourd'hui, les musulmans, ceux qui le savent, associent le kalam uniquement à l'islam, du fait que le mot est arabe. Or, il y a un kalam musulman, il y a un kalam chrétien, et il y a un kalam juif. Oui. Donc, on a un champ discursif qui est celui de la théologie du kalam, dans lequel les savants musulmans ont une part importante, mais elle est non moins importante, ni plus importante que les contributions des autres savants chrétiens et juifs. De la même façon que dans ces échanges, dans ces confrontations, dans ces élaborations communes, on a deux traditions de théologie qui sont celles du mu'tazilisme. Aujourd'hui encore, quand un musulman ou quelqu'un de cultivé qui connaît un peu l'islam pense au mu'tazilisme, il pense à la théologie ou à la théologie rationaliste qui s'est développée en islam à partir du 8e siècle. Mais on oublie qu'il y a un mu'tazilisme juif et qui est une grande tradition savante et religieuse. Donc il y a un niveau d'élaboration de discours sur la religion auquel les différentes traditions monothéistes ont participé. Quand on veut établir les preuves de l'existence de Dieu, puisque chrétiens, musulmans et juifs et d'autres encore, zoroastriens ou même manichéens ou d'autres. Leur religion repose en grande partie sur un dieu unique. Les preuves de dites rationnelles de l'existence de Dieu, par exemple celles qui ont été élaborées par les théologiens musulmans et les philosophes de langue arabe et de religion musulmane, vont se retrouver en partie, par exemple, dans la théologie scolastique de l'Europe latine.
Et qu'on retrouve jusqu'à l'école de Salamanque, reprenant les débats intra-mu'tazilites, que ce mu'tazilisme soit de facture islamique ou de facture juive.
C'est ça qui est oublié aujourd'hui. Quand vous dites que on peut critiquer l'islam, sauf à considérer le terme critique au sens péjoratif du...
C'est-à-dire dénigrer.
Dénigrer, oui.
C'est l'approche académique.
Oui, mais poser un regard critique sur la religion, sur sa propre religion, c'est quasiment un devoir religieux. Parce que si vous êtes croyant, vous devez être convaincu de façon profonde de votre adhésion à telle religion. Maintenant, si vous avez reçu cette religion de vos parents et que vous dites « bon, je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans », il y a des traditions savantes qui disent que qu'il ne suffit pas d'être né dans une religion pour la connaître ou même pour y appartenir pleinement. Il faut faire l'effort intellectuel de la comprendre et d'être convaincu intellectuellement du bien fondé de cette religion. Donc forcément, on va poser un regard critique sur la religion.
Oui, l'ardeur chauvine à ce qu'on a pu hériter des parents, ou l'ardeur chauvine pour le patrimoine sans le passer par le tamis de la raison ni par le filtre de l'entendement, confine finalement au fanatisme. Toute tradition religieuse et même toute doctrine philosophique, si elle fuit le débat, si elle ne s'assume pas dans la critique, finissent par se vulnérabiliser et, redoutant l'asphyxie, il ne reste plus que la violence ou le fanatisme pour subsister quelques instants. Donc c'est pour ça que c'est même un devoir religieux que d'être dans l'étude et dans la critique.
Exactement. Mais ça n'est qu'un côté, qu'un aspect du problème. ça, on le constate, que la crise de la pensée religieuse islamique, elle est là, devant nous. Il n'y a pas une grande tradition théologique. Le droit musulman est en crise, et il n'est pas arrivé à se renouveler et à s'insérer dans le monde dans lequel nous vivons, etc., etc. Donc il y a un assèchement de la pensée. Il y a des distorsions telle que la spiritualité en grande partie de à laquelle est adossée ou sont adossées toutes les religions et l'islam aussi, cette spiritualité s'est perdue, mais ça n'est pas perdu, tout cela ne s'est pas perdu uniquement par la faute de la tradition ou par la faute des habitudes prises par les musulmans au cours des siècles. Elle est aussi produite par la forme dominante d'islam, en particulier sunnite, à laquelle appartiennent la plupart ou la majorité des musulmans sunnites. Alors, pour aller vite, on dit que cette forme est le salafisme. Mais le salafisme, en vérité, est une multiplicité d'expressions religieuses. Le terme n'est pas nouveau. À la fin du Moyen Âge, il y a un certain nombre d'érudits religieux qui disaient être des salafistes. Et ils entendaient dire par là qu'ils voulaient lutter contre les innovations blâmables dans la religion et restaurer la religion dans sa pureté première.
Parce qu'être salafiste, c'est suivre l'enseignement et la pratique des pieux anciens, les devanciers considérés comme un modèle à suivre. Mais j'ai cru comprendre...
Et donc, à cette forme de salafisme qui s'est développée à la fin du Moyen-Âge et qui s'est perpétuée et qui a donné une forme extrême avec le wahhabisme.
Le wahhabisme, on est déjà au XVIIIe siècle.
Il est héritier de cette tradition du salafisme qui s'est constituée à la fin du Moyen-Âge.
Et qui a transité via Ibn Taymiyyah, entre autres.
Voilà, non seulement à travers Ibn Taymiyyah, non seulement à travers le hanbalisme de l'école juridique d'Ahmed ibn Hanbal, qui est la plus traditionnelle des écoles juridiques religieuses, mais également à travers des secteurs du chafiisme, de l'autre, une autre école juridique, on va dire l'aile hanbalisante du chafiisme, avec, si des musulmans nous écoutent, des autorités religieuses comme Nawawi ou comme Subki ou comme ces grands savants, n'étaient pas des hanbalites, mais ils étaient dans une école plus modérée que le hanbalisme, mais ils avaient pris parti pour le dogme hanbalite. Et puis, il y a ce nouveau salafisme qui va se constituer à la fin du 19e siècle et plus encore au début du 20e siècle. Et c'est cette forme d'expression du salafisme qui s'est constituée à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a envahi tout l'espace de la religiosité islamique sunnite. Or, cette forme de religiosité est bâtie sur la destruction du pluralisme juridique et religieux qui existait à l'intérieur du sunnisme. Aujourd'hui, les jeunes musulmans militants ou de simples musulmans disent n'adhérer à aucune école en particulier. Ils savent rien du malikisme, ils savent rien du hanafisme, ils savent rien ils ne savent rien du malikisme. Pour eux, ils sont musulmans, ils sont salafis, c'est-à-dire ils sont pour la pureté de l'islam et le retour aux sources, c'est-à-dire quand ils disent le salafisme le retour aux sources, ça n'est pas le retour au Coran, c'est le retour au hadith. Et toute la difficulté vient de là, parce que le hadith qui constitue la tradition prophétique, comme science religieuse, elle est la dernière à se constituer. C'est-à-dire que la théologie s'est constituée, le soufisme s'est constitué, le droit s'est constitué, et ces différentes figures se sont constituées dès le 8e, début du 9e siècle, et la science du hadith, c'est-à-dire des paroles et des dits et gestes du prophète, ne s'est constituée que qu'à partir du milieu du 9e siècle. Et la canonisation des grands corpus de hadith ne s'est pas opérée immédiatement. Elle a mis 3 siècles à se faire. Donc, on voit comment l'historicité s'immisce dans la fabrique de la religion, dans le cas précis, il s'agit de l'islam, et qui lui donne une couleur ou une tournure qui est le produit d'une certaine histoire. Oui. Et donc, c'est d'être à la fois héritier de ce blocage. On n'est pas hérité de cette tradition. Nous sommes héritiers des blocages provoqués par la dissémination de cette forme de religiosité qui s'appelle le salafisme.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec le professeur Houali Touati, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, nous parlons de la nécessité même de critiquer ce patrimoine religieux islamique, que la critique de l'islam était une nécessité et c'était autorisé par la propre théologie islamique. Vous nous parliez, Houali Touati, du salafisme et puis de ce besoin impérieux de revoir ce qu'on appelle désormais les corpus seconds par rapport au corpus premier qu'est le Coran. Et comment cette calcification s'est faite aussi dans le temps. Il revient à ma mémoire cette idée qu'à un moment donné, avant peut-être les histoires d'Ibn Taymiyyah et par la suite la cristallisation faite avec Mohammed ibn Abdel Wahhab au XVIIIe siècle, quand on parlait du salaf, par moment on parlait des anciens, c'était des Grecs, parce qu'on disait il faudrait prendre la sagesse chez les Grecs, Hikmat al-Qudama, c'était aller voir s'abreuver au niveau des connaissances, notamment philosophiques et scientifiques, de l'hellénisme classique ou antique. Maintenant, Houali Touati, cette idée d'éthique du désaccord, du débat, vous avez évoqué Shafi'i est maître éponyme de la troisième école juridique, mort en 820, disait lorsque dans un débat ou dans une controverse, je considère mon avis juste, mais il se peut qu'il soit entaché d'erreur, et l'avis de mon contradicteur est par construction faux, mais je n'oublie jamais qu'il puisse receler sa part de vérité. Comment se fait-il que cette adab al-munadara, comme on dit, cette éthique du débat ou de la controverse est perdue de nos jours?
Elle s'est perdue avec les traditions savantes et les traditions intellectuelles qui l'a portée. À partir du moment où la science du hadith, c'est-à-dire des paroles et du dit du prophète, devient l'élément structurant de la religion. Vous allez faire prévaloir l'argument d'autorité sur l'argument rationnel. Vous allez me dire, si on fait prévaloir le Coran, on va aussi faire prévaloir un argument d'autorité sur l'argument rationnel. Mais le Coran est un texte complexe, est un texte chargé d'une multiplicité de sens. Donc il s'est adossé à une herméneutique.
C'était ce terme en langue arabe, c'est que il y a plusieurs sens. Enfin, une phrase, un verset a plusieurs sens, peut-être même amphibologique ou ambigu, et donc on peut pas y aller comme ça, s'y abreuver directement. On a besoin d'exégèse,
d'une tradition herméneutique. On a besoin d'une tradition herméneutique. C'est-à-dire que quand vous introduisez l'herméneutique, parce que là on va revenir à cette question. Et s'il y a des musulmans qui nous écoutent, ils vont être surpris de la façon dont cette tradition herméneutique appliquée au Coran,
les non-musulmans sont construits. Qu'il y a une tradition herméneutique.
Avec le hadith, c'est-à-dire les dits et gestes du prophète, il n'y a aucune possibilité de réflexion herméneutique. Parce que les transmetteurs de hadith ont produit une quantité monumentale de hadith. C'est il y a j'ose pas dire le chiffre, mais c'est par centaines de milliers que les hadiths se comptent. Donc pour eux, il suffit de trouver le bon hadith pour répondre à n'importe quelle situation. Donc on n'a plus besoin de réfléchir. Il faut être un porteur de hadith, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait mémoriser. Maintenant, avec la révolution du numérique, on n'a même plus besoin de mémoriser le hadith pour le connaître. Donc, et comme tout le hadith est numérisé, et que un certain nombre de pays ont mis beaucoup d'argent à mettre cette littérature salafiste en ligne, et c'est elle qui prédomine sur l'internet et dans les réseaux sociaux, jusqu'à faire oublier qu'il y a d'autres traditions qui sont tout aussi représentatives de l'islam. Donc là, il y a un blocage. Et l'impossibilité de la communication même qui est mise en péril. Donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'on puisse débattre ? Pour débattre, il ne faut pas coller au texte, parce que si on colle trop au texte, ça produit du fanatisme, parce qu'on va vouloir appliquer le texte de façon littéraliste, et ça peut et assez souvent, ça produit une parole folle. La parole qui colle à une référence absolue devient une parole folle. Je pense que ce socle-là est cassé. Les érudits religieux, les érudits musulmans aujourd'hui ne font pas le travail qu'on attend d'eux, c'est-à-dire de réflexion sur ce que pourraient être les savoirs islamiques dans la modernité, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si je reviens à la tradition herméneutique qui a été fondée par les premiers musulmans pour comprendre le Coran. Pour comprendre le Coran, ils ont dû construire des sciences. Parce que le contexte d'énonciation du Coran est un contexte en grande partie oral. Il n'y a pas de grande tradition lettrée, de grande tradition savante dans le milieu où Mohammed a fait sa prédication. Mais tout cela va changer progressivement au fur et à mesure qu'on aura besoin de comprendre les sens que recèle le Coran. Mais pour cela, il faut connaître la langue arabe. Et donc, on a établi une grammaire de l'arabe qui n'existait pas. Mais ça, on a dû le faire.
C'est même un persan qui l'a établi.
Et c'est assez souvent, d'ailleurs, ce sont des non-arabes qui ont fondé les sciences religieuses de l'islam. Donc, il fallait une grammaire. Il fallait une lexicographie. Il fallait la critique textuelle. Et tout cela pour constituer une philologie. Et sans philologie, il n'y a pas de tradition herméneutique. Parce que la tradition herméneutique est essentiellement un travail sur la langue. Si vous ne connaissez pas parfaitement la langue, vous ne pouvez pas extraire du sens à un texte. Et la philologie arabe ressemble étrangement à la philologie grecque, qui est essentiellement philologie alexandrine. Elle repose sur le témoignage poétique. C'est-à-dire que pour déterminer le sens d'un mot, on va aller chercher chez les poètes les plus archaïques le sens, d'abord vérifier que le mot existe, et puis essayer de déterminer le sens que tel poète archaïque lui donne. Par exemple, pour les Grecs, la grande référence, c'est Homère. Homère, ça peut être un poète ou un ensemble de poètes, mais qui incarne le génie linguistique du grec. Et donc, on a fait la même chose pour l'arabe, pour attester que tel mot signifie telle chose et qu'il existe bien dans la langue arabe. On a demandé aux poètes archaïques, on est allé recueillir les poèmes archaïques. Le problème avec ces poètes archaïques, c'est que c'est des poètes qui vivaient avant l'islam.
Donc c'était la période anté-islamique.
Anté-islamique. Certains d'entre eux étaient des païens. D'autres étaient chrétiens. Et les troisièmes étaient juifs. Alors certains musulmans ont dit, mais comment voulez-vous que des païens, des chrétiens et des juifs deviennent les garants de la vérité lexicographique de notre texte révélé? On ne peut pas accepter la philologie. Ça a provoqué des débats et des tensions énormes durant tout le 8e siècle. Mais ce qui a triomphé, c'est cette voie-là.
Et la
réhabilitation des poètes anté-islamiques. Voilà comment se construisent historiquement les réponses à des grandes questions religieuses. Elles sont toujours estampillé du sceau de l'histoire. Quand on vient à l'oublier, on vient à abolir la possibilité même de la compréhension.
Oui, Houari Touati, dans les débats qui pouvaient avoir lieu, soit à la Maison de la Sagesse de Bagdad ou ailleurs, on ne prenait pas ses propres références comme base de discussion, où on essaie à tout le moins d'en être à équidistance des références quand il s'agissait de débats entre théologiens, musulmans, chrétiens, en présence de savants juifs et d'autres. Le seul arbitre, c'était l'entendement humain. Ça se passait comme ça, et puis vous rapportez cette histoire de l'Andalou qui, voulant accomplir ses grandes pérégrinations, est allé de l'Occident islamique vers l'Orient, ou même son centre, est allé à Bagdad, et au bout d'un certain temps, il était peut-être déstabilisé par ce qui s'est passé, et de retour, il s'attarde à Kairouan. Et là, il rencontre un cheikh, un hiérarque musulman, et il lui rapporte la liberté de ton qu'il y avait au niveau des critiques de la religion islamique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, d'abord, était-il, lui, déstabilisé? Pourtant, en Andalousie, il y avait une ambiance, une effervescence intellectuelle. Et comment explique-t-on la liberté de ton, voire d'attaque, pour ne pas dire simplement des critiques académiques qui pouvaient émaner de lettrés, de savants, quelle que soit leur appartenance confessionnelle?
Oui, de telles disputations interconfessionnelles entre théologiens de différentes communautés religieuses faisaient partie de la vie intellectuelle du Moyen Âge musulman, c'est-à-dire entre le 8e et le 12e siècle, parce que ces théologiens-là avaient des références communes. On ne comprendrait pas les choses si on ne voit pas quels sont les soubassements philosophiques et métaphysiques de cette possibilité de dialogue entre gens qui appartiennent à des religions différentes. Je crois que la chose essentielle, c'est leur adhésion au concept de l'homme. Ils ont foi en l'homme. Or, ce concept de l'homme est un concept grec. C'est les Grecs disent de l'homme que c'est un animal qui est doué du logos.
Un zoon logikon.
Voilà. Et les musulmans ont traduit logos par le terme noutre, qui veut dire discours. Mais la traduction est heureuse parce que logos veut dire tout à la fois raison et langage. C'est-à-dire que l'homme est un animal qui est doué de la raison et du langage. Mais essentiellement, il est doué de la raison. Parce que certains philosophes pensaient que certains animaux étaient aussi doués du langage et que le langage n'était pas une propriété propre à l'homme. Donc, il y a ce concept fort de raison qui a structuré l'espace discursif rendant possible ces confrontations. D'un autre côté, les Grecs aussi ont joué un rôle considérable dans la constitution des savoirs religieux de ces différentes traditions religieuses monothéistes, parce que ils ont donné aux uns et aux autres une façon de penser. Or, cette façon de penser, c'est celle qui est fournie essentiellement par la logique d'Aristote. Bon, les stoïciens ont aussi œuvré à développer cette logique, d'autres courants de pensée philosophique, mais dans le monde musulman, la logique est d'abord connue à travers le corpus d'Aristote. Et c'est pour cela que tout théologien digne de ce nom, qu'il soit musulman, chrétien, juif ou autre, devait apprendre la logique. C'était le langage commun à tous les théologiens. Ils utilisaient les mêmes concepts, ils utilisaient les mêmes styles de pensée qui rendaient possible la communication entre eux. Donc, il pouvait rester à ce niveau sans descendre au niveau qui est spécifique à la religion de chacun d'entre eux. Mais la logique grecque n'est pas restée uniquement à ce niveau. Elle est descendue, y compris dans l'étude de ce qu'on appelle les fondements du droit musulman et ce qu'on appelle les fondements de la religion, qui est une autre discipline scientifique. C'est-à-dire que même au moment où une grande partie des érudits religieux musulmans se sont détournés de la philosophie grecque, ils en ont conservé le socle logique. Et donc, ils ont toujours réfléchi sur des bases logiques qui leur avaient été données par les Grecs. Or, la logique grecque est à la fois une logique, mais aussi une ontologie, avec des notions comme substance, des notions comme accident. Ça n'est pas uniquement de la logique, c'est aussi une représentation du monde. C'est cela que le salafisme a cassé. Et en cassant ce socle réflexif, ils ne l'ont pas remplacé par un autre. Et depuis des générations et des générations, les érudits religieux de l'islam ne savent plus discuter, ne savent plus penser, puisqu'ils n'ont pas l'outillage intellectuel qui leur permet de penser. Du fait même que les arguments d'autorité ont envahi et submergé toute autre forme argumentative.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec Houari Touati, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, nous parlons de la nécessité de la critique pour ne pas mourir asphyxié. Vous avez eu cette belle parole qui dit qu'une parole qui colle à une référence absolue devient une parole folle. Et vous parlez de ce besoin impérieux qui était prévalent, qui prédominait en tout cas dans les contextes islamiques du temps où il y avait place à la raison. Vous avez évoqué l'idée de logique et j'ai lu dans un de vos articles que qu'il y avait un juif, un lettré juif du nom de Kamouna et qui utilisant des arguments logiques, parlait de la prophétie mohammedienne. Et est-ce que était-il véritablement un prophète ou pas? Ceci a ému certains musulmans, d'autres pas. Et comment finalement est finie cette histoire? Je vous la laisse dire à nos auditeurs.
Oui, nous sommes au... Cela se passe au...
On est en 1280, enfin, oui, seconde oui, moitié oui, du XIIIe siècle.
Siècle. Effectivement, nous avons là un savant juif qui écrit en arabe, qui a des échanges avec ses collègues musulmans et chrétiens, et qui est à la fois un théologien juif et un philosophe, et qui écrit une réfutation des autres religions monothéistes, pas uniquement de l'islam. Et il part du constat de la difficulté que le droit musulman, la difficulté à appliquer le droit musulman, y compris à cette époque-là. Et la façon dont les musulmans œuvrer pour contourner, pour essayer d'appliquer des choses qui étaient très difficilement applicables dans les réalités de l'époque. Et donc, il se dit, si une loi est aussi imparfaite, est-ce que celui qui l'a produite peut-il être parfait? Alors, dit de cette façon-là, les musulmans d'aujourd'hui sont choqués du fait, c'est blasphématoire, du fait même de poser l'hypothèse que le prophète de l'islam puisse être parfait.
Mais, ou imparfait.
Plutôt imparfait. Ouais, imparfait. C'est méconnaître les façons de penser qui avait cours à cette époque-là. C'est comme si on trouve, par exemple, chez Farabi, la question « Dieu existe-t-il ?» Pour un croyant, l'idée même de poser la question, c'est une question blasphématoire. Mais en réalité, ce ne sont pas des questions blasphématoires. Si vous dites « Dieu existe-t-il ?» parce que vous ne pouvez donner la définition d'un objet que si vous en avez attesté l'existence. Et comme la définition vous la donnez par l'essence de la chose, il faut en prouver l'existence. Donc c'est le fameux débat de ce qui précède l'essence ou l'existence, que tous les élèves de terminale aujourd'hui connaissent. Mais c'est un débat philosophique que les philosophes de langue arabe ont produit. La même chose pour cette idée que le prophète Mohammed est-il parfait ou imparfait, parce que c'était ce que disaient les musulmans eux-mêmes des prophètes hébreux ou de Jésus. Est-ce que tel prophète est ceci ou cela?
Et même pour le prophète de l'islam, quelqu'un comme Razi, Razès, posait aussi la question.
Alors,
sur l'élection.
Les philosophes, on va dire, ont un point de vue qui est un point de vue hors de la religion. Mais là, on est en train de parler de théologiens qui sont à l'intérieur de la religion.
Logique confessante.
Oui, c'est comme par exemple le dogme de l'impeccabilité du Coran. Il y a beaucoup de théologiens qui ne croient pas à l'impeccabilité du Coran, sans pour autant contester que le Coran est une révélation divine. Ils disent c'est une révélation divine, mais elle est faite dans des mots qui sont les mots des humains. Si elle est faite dans les mots qui sont des mots des humains, c'est que les humains sont capables de produire un discours semblable. Ben, ils ne peuvent pas le faire parce que aucun d'eux n'est assez fort, ni assez parfait, ni assez ceci, ni assez cela. Mais c'est dans la langue humaine. Et pour les théologiens, la langue. Pour certains, c'est une langue que les langues ou les langages sont révélés par Dieu, mais pour la plupart d'entre eux, les langages sont une convention, une institution humaine. Donc, on peut poser, quand on a ces éléments du débat, on peut entrer dans le débat sans être choqué. On est choqué quand on est ignorant. Parce que si je dis à ma défunte mère, penses-tu vraiment que Dieu existe? Naturellement que je vais la choquer. Or, cette forme d'ignorance qui s'est répandue aujourd'hui dans le monde musulman fait beaucoup de dégâts. Parce que elle produit des réactions éruptives, elles sont du côté de la passion et non pas du côté de la réflexion. C'est pour ça que la population du quartier où habitait ce théologien et philosophe juif a voulu le punir, et c'est un érudit religieux musulman qui dit « calmez-vous, vous êtes dans le tort ». Et qui le sauve de la vindicte populaire.
On est à la fin du XIIIe siècle, disons seconde moitié, puisqu'il est mort en 1280. Alors il faut l'équivalent de cet érudit musulman de nos jours pour calmer ces réactions éruptives, notamment de la jeunesse, parce qu'elle est ignorante de tout un patrimoine. D'ailleurs, ce n'est pas que la jeunesse musulmane, puisque le débat aussi hystérique qui a pu avoir lieu, et surtout sur cette notion de peut-on ou doit-on, où il faut critiquer l'islam, en réalité, la question ne se posait pas. On se posait pas dans cette période-là. Elle se pose maintenant parce qu'on n'ose pas transgresser des tabous. Et surtout, peut-être que nous finirons là-dessus, revenir au corpus second, au corpus des aphorismes du prophète, de ses dires, de ses paroles, et surtout quand ils sont contradictoires. Avec l'histoire du coronavirus, j'ai appris que il y a dans les paroles du prophète que deux villes ne seraient pas atteintes par les épidémies, la Mecque et Médine, la peste n'y entrera pas, d'autres maladies non plus, et on voit maintenant que les autorités sanitaires confinent ou ne demandent aux pèlerins de ne pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Ce qu'il y a dans le hadith ou le principe de bon sens?
Je pense que la difficulté de l'islam à être présent au monde dans lequel nous vivons vient de la tentation de vouloir étendre son discours à tous les aspects de notre vie. Au lieu de se replier sur la spiritualité et sur les actes de foi individuels et d'établir une relation sur cette base avec la divinité, le salafisme a entrepris de réislamiser complètement la société sur la base de nouvelles normes. Or, les normes du salafisme sont des normes difficilement compatibles avec le monde moderne dans lequel nous vivons, et dans la mesure où elles ne sont, je dis pas dans la mesure, elles sont incompatibles aussi avec le pluralisme juridique de l'islam lui-même.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Merci d'être venus nous voir, Houali Touati. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Cédric Châtelut. Et la réalisation est assumée par l'ami Philippe Audouin.
مشفتوش ميرزا لا 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 مشفتوش ميرزا لا 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 مشفتوش ميرزا ولا لا 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 فين مشى هاد الكلب فتشت عليه في كل درب فين مشى هاد الكلب غادي يحرم لي القلب مشى هاد الكلب ويقرا هو فراس الدب اجي عندي وقرب واللي عشا تهرب اجي تظل هنا اجي قلت لك شرب شهد الكلب ويقرا هو براس الدب هذه اخر مره باش نخليك برا اجي لحنا وخرب ما نبقيش تهرب اجي لهنا معايا